Cinquième partie. Les ressources du croyant. Point 1. Le ministère de Christ. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, versets 37 et 38. Quels que soient mes embarras, mes difficultés, mon deuil, ma solitude, mon dépouillement, Jésus répond à tout, à tout. Il ne me promet pas seulement le repos ou l'apaisement de ma soif. Écoutez, des fleuves d'eau vive jailliront de son ventre. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Jean 4, verset 14. Savoir que « n'aura » signifie « n'aura », que « jamais » signifie « jamais », que « soif » signifie « un besoin quelconque non satisfait » est une des plus grandes révélations que Dieu puisse faire à une âme. Le Seigneur ne nous abandonne pas à cause de nos fautes ou de notre négligence. Il intercède pour nous et nous faisons l'expérience de sa grâce. Mais ce n'est plus la communion, ni un progrès intelligent dans les richesses de la révélation de lui-même et de la plénitude qui est en Christ. C'est la grâce adaptée à nos besoins, une réponse à notre misère. Jésus étend sa main vers nous selon le besoin que nous sentons, besoin produit dans nos cœurs par l'opération du Saint-Esprit. Que Jésus s'occupe ainsi de nous est une grâce infiniment précieuse, une douce expérience de sa fidélité et de son amour. On apprend par ce moyen à discerner le bien et le mal par le jugement de soi-même. Quand on a perdu la communion avec Dieu, on ne peut pas négliger ce retour sur soi-même sans se tromper et s'endurcir. Christ est un ami fidèle. Même si nous commençons à enfoncer dans les flots, il étend sa main et nous en sort. Il est doux de sentir sa main dans toutes nos circonstances, même si, perdant pied, nous l'avons obligé à l'étendre. Christ, dans la gloire, n'oublie pas ses expériences humaines. Elles sont gravées pour toujours dans les sentiments de son humanité, selon l'énergie de l'amour divin qui était la source et le mobile de ses sentiments. Il est toujours homme dans la gloire et dans la perfection divine. Sa divinité prête la puissance de son amour à son humanité, mais note pas celle-ci. Il n'y a personne qui soit aussi près de nous, personne qui soit descendu aussi bas, qui soit entré comme lui, avec une puissance divine, dans les besoins, dans tous les besoins de l'homme. Le Seigneur, que j'ai appris à connaître comme celui qui a donné sa vie pour moi, et le même Seigneur à qui j'ai affaire tous les jours de ma vie, et toutes ses dispensations à mon égard sont fondées sur les mêmes principes de grâce que mon salut. Qu'il est précieux et encourageant de savoir qu'en ce moment même, Jésus éprouve et exerce à mon égard le même amour que celui qu'il manifestait en mourant pour moi sur la croix. Le maintien d'une énergique communion avec la parfaite humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est un des côtés les plus faibles et les plus imparfaits de notre christianisme. De là vient que nous éprouvons tant de lacunes, tant de sécheresses, d'agitations et d'égarements dans notre marche. Ah, si nous étions pénétrés, grâce à une foi plus simple, de cette vérité que c'est un homme réel qui est assis à la droite de la majesté dans les cieux, un homme dont la sympathie est parfaite, dont l'amour est incompréhensible, dont la puissance est sans borne, dont la sagesse est infinie, dont les ressources sont inépuisables, dont les richesses sont insondables, dont l'oreille est ouverte à tous nos soupirs, dont la main est ouverte à tous nos besoins, dont le cœur est rempli pour nous d'une tendresse ineffable, comme nous serions plus indépendants de tout ce qui découle de la créature, quel que soit le canal qui nous le communique. Tout ce que le cœur peut ambitionner, nous le possédons en Jésus. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans son amour et dans sa fidélité, le même pour éclairer, vivifier, conduire, protéger les siens. Ce qu'il fut dans le passé pour tous les saints qui ont achevé la course, il l'est aujourd'hui pour nous. Ce qu'il est, il le sera dans l'éternité pour remplir et satisfaire nos cœurs. Qu'il nous suffise donc et remplisse nos cœurs. C'est en lui que nous trouverons le repos, le courage et la force. Il répond pleinement à tout. La sacrificature de Christ a pour base l'amour manifesté une fois, mais non épuisé à la croix, car il reste et restera le même jusqu'à la fin. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Jean 13, verset 1. Il ne suffit pas au Seigneur de nous sauver. Son amour veut nous sauver jusqu'au bout, et c'est à quoi il s'emploie comme sacrificateur. Il a une sacrificature qui ne se transmet pas, de là vient aussi qu'il peut sauver entièrement, jusqu'à l'achèvement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, versets 24 et 25. Rien ne peut arrêter ou même entraver ce service sacerdotal en faveur des siens. Point 2. Le ministère du Saint-Esprit. Quand on marche avec Dieu, quand on marche selon l'Esprit sans le contrister, il nous maintient dans la communion, dans la jouissance de Dieu, source positive de joie, d'une joie éternelle. C'est une position dans laquelle Dieu veut nous occuper de tout le développement de ses conseils dans la personne de Jésus. Le cœur s'élargit à la mesure des objets qu'il occupe. Telle est notre condition normale. De même que pour le pardon, la venue du Saint-Esprit sur nous est entièrement une question de foi. Dès que nous voyons le Seigneur Jésus sur la croix, nous savons que nos péchés sont pardonnés. Et dès que nous voyons le Seigneur Jésus sur le trône, nous savons que le Saint-Esprit a été répandu sur nous. Que Dieu soit loué, aucun de ses enfants n'a besoin de languir, ni même d'attendre pour que l'Esprit lui soit donné. Jésus ne doit pas être fait Seigneur. Il est Seigneur. Je ne dois pas recevoir l'Esprit, j'ai reçu l'Esprit. Tout est une question de foi qui nous vient par révélation. Lorsque nos yeux sont ouverts pour voir que l'Esprit a déjà été répandu, parce que Jésus a déjà été glorifié, la prière se change dans nos cœurs en louange. Savez-vous, mes chers amis, que l'Esprit qui demeure en vous est Dieu lui-même. Oh, que nos yeux s'ouvrent pour voir la grandeur du don de Dieu. Oh, que nous réalisions la richesse des ressources cachées dans nos propres cœurs. L'Esprit qui demeure en moi n'est pas une simple influence, mais une personne vivante. C'est Dieu lui-même. Le Dieu infini est dans mon cœur. Je ne suis qu'un vase de terre. Mais dans ce vase de terre, je porte un trésor d'une valeur inexprimable, le Seigneur de gloire. Lorsque nous verrons réellement que Dieu a fait de nos cœurs son habitation, quel sentiment de profond respect remplira nos vies? Toute légèreté, toute frivolité disparaissent, comme aussi toute recherche de soi-même, parce que nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Avons-nous vraiment réalisé que, partout où nous allons, nous portons en nous le Saint-Esprit de Dieu? Non seulement je suis en Christ, mais Christ est en moi. Et de même que, physiquement, l'homme ne peut vivre et travailler que dans l'air et non dans l'eau, de même, spirituellement, Christ demeure et se manifeste non dans la chair, mais dans l'esprit. C'est pourquoi, si je vis selon la chair, je m'aperçois que ce qui est à moi en Christ est, pour ainsi dire, tenu en suspens en moi. Bien que, en fait, je sois en Christ, si je vis dans la chair, c'est-à-dire dans ma propre force et selon ma propre volonté, je m'aperçois avec consternation que, en expérience, c'est ce qui est d'Adam qui se manifeste en moi. Si je veux connaître en expérience tout ce qui est en Christ, il faut que j'apprenne à vivre dans l'Esprit. Vivre dans l'Esprit, cela signifie que je me confie au Saint-Esprit pour qu'il accomplisse en moi ce que je ne puis pas faire moi-même. Cette vie est complètement différente de celle que je vivrai naturellement par moi-même. Chaque fois que je suis en face d'une nouvelle demande du Seigneur, je regarde à lui pour qu'il accomplisse ce qu'il attend de moi. Je n'ai pas à essayer, mais à me confier. Je n'ai pas à lutter, mais à me reposer en lui. Je ne chercherai pas à me transformer par un effort déterminé, mais je me considérerai comme mort en Christ à l'égard de toutes les manifestations de la chair, et je regarderai à l'Esprit pour qu'il produise en moi le fruit de l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Galates 5, verset 16. Si nous vivons dans l'Esprit, si nous marchons par la foi en un Christ ressuscité, nous pouvons réellement demeurer tranquilles, tandis que l'Esprit remporte chaque jour de nouvelles victoires sur la chair. Il nous a été donné pour prendre cette responsabilité. Notre victoire consiste à nous cacher en Christ et à nous confier, dans une simple assurance, à son Saint-Esprit, qui triomphe en nous de la chair et de ses convoitises par ses désirs nouveaux. Il ne faut pas que nous oublions que la nouvelle nature dans le croyant est dans un état de dépendance. Elle est dépendante de l'Esprit pour la puissance et dépendante de la parole pour la direction. Mais évidemment, la puissance ne peut se manifester que là où se trouve le Saint-Esprit. Il peut être contristé et entravé, mais si nous marchons par l'Esprit, nous remportons sur la chair une victoire sûre et constante. Lorsque nous sommes tentés de nous laisser aller à des pensées, à des sentiments, à des paroles qui ne sont pas selon Dieu, quel puissant correctif que de réaliser le fait que le Saint-Esprit habite dans nos corps comme dans son temple. Si nous pouvions toujours nous en souvenir, cela nous préserverait de bien des pensées vagabondes, de bien des paroles légères ou vaines, de bien des actes inconséquents. Point 3. La parole de Dieu. Que ma conscience ne cherche point à échapper au tranchant de la parole, et que je ne redoute pas de me laisser transpercer par elle, que je redoute plutôt ce qui pourrait me soustraire à son action scrutatrice. La parole de Dieu est l'expression de la relation de toutes choses avec Dieu, soit quant à leur existence, où il s'agit de la création, soit quant à ses conseils, soit même quant à sa nature à lui, à la communication de la vie reçue de lui et au maintien de son vrai caractère. Elle procède du ciel, comme en procédait la parole vivante. Elle révèle ce qui est au ciel, mais, ainsi que faisait la parole vivante, s'adapte à l'homme ici-bas, le dirige là où il y a de la foi, mais le conduit là-haut où la parole vivante s'en est allée comme homme. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Seul Dieu peut exprimer parfaitement ou révéler ce que Dieu est. La parole est, par conséquent, infinie dans ce qui coule en elle, parce qu'elle est l'expression des profondeurs de la nature divine et qu'elle est liée à ces profondeurs. Puissions-nous avoir un sentiment plus profond de la plénitude, de la majesté et de l'autorité de la parole de Dieu? Nous avons bien besoin d'être fortifiés à cet égard. Il nous faut un sentiment si vif, si vigoureux et si constant de l'autorité suprême du canon sacré et de sa complète suffisance pour tous les temps, tous les climats, toutes les positions, tous les états, personnels, sociaux, ecclésiastiques, que nous puissions résister à tous les efforts de l'ennemi pour déprécier la valeur de cet inestimable trésor. Puissent nos cœurs être mieux à l'unisson de ces paroles du psalmiste. La somme de ta parole est la vérité, et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. Psaume 119, verset 160. Il est important de remarquer que les chrétiens n'obtiennent aucun effet réel de la parole, cette épée de l'esprit, ne peuvent remporter par elle aucune victoire, et en connaîtront à peine l'usage s'ils n'ont pas fait l'expérience de son efficace sur eux-mêmes, et si elle ne les a pas formés individuellement pour résister aux séductions de Satan. Il faut avoir fait des expériences intérieures et personnelles de la puissance de la parole pour pouvoir s'en servir en faveur des autres. Elle est l'épée de l'esprit. L'esprit seul peut lui donner tout son tranchant et la faire pénétrer dans les cœurs comme elle est entrée dans le nôtre. La parole de Dieu est une énergie créatrice qui domine la matière et possède la prééminence sur elle. Soumettons-nous à cette puissance créatrice, et que notre corps en soit constamment vivifié. Que Dieu nous accorde de vivre de jour en jour par sa parole. La crainte de Dieu se reconnaît chez l'homme à l'autorité de la parole sur sa conscience. Nous ne pouvons plaire à Dieu sans obéir à sa parole. Les circonstances extérieures doivent être pesées en la présence de Dieu et jugées à la lumière de sa parole, sans quoi elles peuvent nous conduire aux plus graves erreurs. Bref, la parole de Dieu est la pierre de touche parfaite pour toute chose. Les circonstances extérieures, les impressions intimes et les sentiments, tout doit être placé dans la lumière de l'Écriture sainte, et jugez là calmement et sérieusement. C'est le vrai chemin de la paix, de la sûreté et de la bénédiction pour tout enfant de Dieu. La parole est absolument nécessaire aux chrétiens. Nous ne pouvons nous en passer. Comme la vie est soutenue par le pain, de même la vie spirituelle est entretenue par la parole de Dieu. Se nourrir ainsi n'est pas seulement recourir à la Bible pour y trouver des doctrines ou pour y voir nos opinions confirmées. C'est bien plus. C'est y chercher ce qui soutient la vie de l'homme nouveau, c'est-à-dire la nourriture, la lumière, les directions, la consolation, l'autorité, la force, en un mot, tout ce dont l'âme peut avoir besoin. La parole doit être pour nous comme le pain pour l'homme affamé, ou comme la boussole pour le navigateur. C'est d'elle qu'il faut nous nourrir, et d'après elle que nous devons agir, penser et parler. Plus il en sera ainsi, plus nous en connaîtrons la valeur infinie. Qui est-ce qui connaît le mieux la valeur réelle du pain? Est-ce un chimiste? Non, mais un homme affamé. Un chimiste peut l'analyser et dire de quoi il se compose, mais c'est l'homme qui a faim qui en éprouve la valeur. Qui est-ce qui connaît le mieux la valeur réelle d'une boussole? Est-ce le professeur de navigation? Non. Mais c'est le marin qui navigue le long d'une côte inconnue et dangereuse. Point 4. La foi. Notre foi se montre précisément en cela qu'elle s'attache à la personne absente de Christ. Dès que nous le verrons, la foi ne sera plus nécessaire. Quand on est entouré, comme nous le sommes, d'objets qui sollicitent la vue, c'est une chose grande et difficile de réaliser les objets invisibles et de fixer sur eux les regards de la foi. Il faut que le Christ invisible devienne si puissamment réel à notre âme que, près de lui, tout ce qui nous environne perde sa réalité. La foi est indispensable pour cela. Souvenons-nous que Dieu nous a donné, en même temps que la foi, deux moyens de vivre dans les réalités invisibles et de surmonter les obstacles qui s'y opposent. La parole, qui nous révèle Christ, la prière, par laquelle nous pouvons être en communion avec lui et jouir de sa présence. La foi rend présent l'avenir et visible l'invisible. C'est ce qui fait la force du croyant. Elle réalise les choses que l'on espère comme si on les tenait déjà. Ces choses existent pour le cœur. Il a l'assurance de leur réalité. En même temps, elle est une démonstration intérieure des choses que l'on ne voit pas, une conviction intime de leur existence. La foi est une vue de ce qui est caché. Elle nous donne sur l'invisible la même certitude que nous avons pour les choses qui sont sous nos yeux. Ce dont la réalité ne paraît point encore, la foi nous en donne la substance. Dieu prend plaisir à une grande hardiesse, preuve d'une grande foi. Rien ne l'honore autant. Ce qui caractérise la foi, c'est qu'elle compte sur Dieu, non seulement en dépit des difficultés, mais en dépit des impossibilités. Une foi mise à l'épreuve est une foi fortifiée. Par l'épreuve, nous apprenons à connaître notre faiblesse, mais aussi la fidélité de Dieu, ses tendres soins, même dans les difficultés qu'il envoie, afin que nous puissions les traverser avec lui. La foi repose sur un fondement bien plus solide que l'évidence de nos sens, et ce fondement est la parole de Dieu. Nos sens peuvent nous tromper. La parole de Dieu, jamais. La foi ne parle jamais de ce qu'elle veut faire, mais elle fait ce qu'elle peut par la force du Seigneur. Le sentier de la foi est un sentier très simple et très étroit. La foi ne déifie ni ne méprise les moyens. Elle les apprécie en tant que c'est Dieu réellement qui les emploie et non pas au-delà. Or, il y a une différence très grande entre l'emploi que Dieu fait de la créature pour me servir et l'emploi que l'homme en fait pour exclure Dieu. On n'y prend pas assez garde. Dieu se servit des corbeaux pour nourrir Élie, mais Élie ne se servit pas d'eux pour exclure Dieu. Quand le cœur est réellement occupé de Dieu, il ne se préoccupe pas des moyens. Il compte sur Dieu, dans la douce assurance que, quels que soient les moyens dont Dieu usera, il bénira, il aidera, il pourvoira. Souvent, Dieu n'est pas pour nos âmes cette constante réalité qu'il devrait être ou qu'il serait pour nous, si nous marchions avec une foi plus simple et dans une dépendance plus entière de lui. Quand par la grâce, l'âme cesse de s'attendre à la créature, alors, et alors seulement, elle est dans les dispositions voulues pour que Dieu puisse agir. Et quand Dieu agit, tout va bien. Il ne laisse rien inachevé. Il règle parfaitement tout ce qui concerne ceux qui mettent leur confiance en lui. Quand la souveraine sagesse, la toute-puissance et l'amour infini agissent ensemble, le cœur croyant peut jouir d'un doux repos. Se reposer sur les bénédictions de Dieu est autre chose que de se reposer sur Dieu lui-même. Il n'y a pas de position plus bénie que celle d'une âme qui, avec la simplicité d'un petit enfant, vit dans une dépendance entière de Dieu, parfaitement satisfaite d'attendre son temps. Cette position apporte des épreuves avec elle, cela est vrai. Mais l'âme renouvelée apprend les leçons les plus profondes et fait les expériences les plus douces, pendant qu'elle s'attend ainsi au Seigneur. Et plus la tentation de nous soustraire au gouvernement de Dieu sera puissante, plus sera abondante aussi la bénédiction, si nous savons demeurer dans cette position bienheureuse. C'est quelque chose d'infiniment doux de dépendre de quelqu'un pour qui bénir est une joie. Ceux qui, en quelque mesure, ont goûté la réalité de cette merveilleuse position peuvent seuls l'apprécier, et le seul qui l'ait jamais occupé parfaitement et sans interruption, c'est le Seigneur Jésus. Il fut toujours dépendant de Dieu et rejeta absolument toute proposition de l'ennemi à sortir de cette dépendance. Nous n'aurons jamais mis vraiment à l'épreuve les ressources de Dieu tant que nous n'aurons pas essayé l'impossible. Quel soulagement, quelle immense joie de savoir que c'est Dieu qui agit. Dès lors, nous entrons dans le repos, nous nous reposons de nos propres œuvres. L'œuvre de Dieu, faite selon Dieu, ne manquera jamais des ressources de Dieu. Ni l'insensibilité, ni l'insouciance ne sont de la foi. Il y a des personnes nonchalantes qui semblent traverser la vie en ayant pour principe de prendre les choses par le bon côté. Ce n'est pas de la foi. La foi regarde les difficultés en face. Elle voit très bien le côté pénible des choses. Elle n'est ni ignorante, ni indifférente, ni insouciante. Mais quoi ? Elle introduit le Dieu vivant. Elle regarde à lui et s'appuie sur lui. Tout pour elle découle de lui. La foi est le grand principe de la vie divine, du commencement à la fin. Nous sommes justifiés par la foi et nous vivons par la foi. Nous sommes debout par la foi et nous marchons par la foi. Du début à l'issue de la course, tout est par la foi. Il n'y a pas de limites aux bénédictions dont nous pourrions jouir si nous comptions davantage sur Dieu. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Dieu ne nous dira jamais « Tu as assez reçu, tu attends trop ». Impossible, car c'est sa joie de répondre aux espérances les plus vastes de la foi. Ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai. Psaume 81, verset 10. Les trésors inépuisables du ciel sont ouverts à la foi. Quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. La foi n'hésite ni ne doute. L'incrédulité est toujours hésitante et chancelante. C'est pourquoi elle ne voit jamais la gloire de Dieu ni sa puissance. Nous n'avons aucune idée de combien de bénédictions elle nous prive. Vouloir marcher sur le sentier de la foi avec une mauvaise conscience est une chose des plus dangereuses. Ce n'est que lorsque nos reins sont saints de vérité et que nous avons revêtu la cuirasse de la justice que nous pouvons prendre le bouclier de la foi. Croire, c'est se reposer entièrement sur l'infaillibilité et sur la fidélité de Dieu, c'est mettre au-dessus de toute certitude et de toute garantie celles qui naissent de son témoignage, c'est tenir chaque mot sorti de sa bouche comme plus substantiel et plus réel que la réalité même. La chose qui tourmenterait le plus un incrédule est pour l'homme de foi le sujet de la plus grande joie de son cœur. Il sera toujours prêt à s'écrier « Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui, lui seul est mon rocher. » Psaume 62, verset 5. Point 5. La prière. La prière est fondée sur l'immense privilège d'avoir avec Dieu des intérêts communs. La simplicité dans la prière indique une foi sincère, et la foi sincère obtient ce qu'elle demande. Une prière présentée au nom de Jésus ne saurait être repoussée aussi longtemps que nous nous tenons dans les limites du crédit que Jésus nous a ouvert par sa parole. Si nous demandons une chose qui n'est pas selon l'Écriture ou qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, Christ lui-même ne pourrait pas l'accomplir. Mais si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et nous savons que nous avons les choses que nous lui demandons. Si nous demeurons en Christ, Jean 15, verset 7, nos prières seront exaucées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Ce sera là une conséquence toute naturelle, car nos désirs ne seront pas proprement les nôtres, mais ceux de Christ. Et nos demandes ne seront pas proprement les nôtres, mais celles de Christ priant pour nous. Elles seront par là même en harmonie avec la volonté de Dieu. Si nous voulons être vainqueurs dans nos prières, soyons sans merci pour nos infidélités. Aussi longtemps que nous les caressons et que nous sommes, pour ainsi dire, en contestation avec Dieu, il ne peut nous exaucer. Lorsque, dans nos moments d'entretien avec notre Père céleste, une chose s'interpose obstinément entre lui et nous, c'est qu'elle entrave notre prière. Travaillons à la supprimer. La prière dictée par l'Esprit-Saint cultive et développe dans l'âme toutes les grâces de Dieu, l'humilité, par l'expression sincère de nos misères, la foi, qui saisit alors toutes les promesses de Dieu, seul garant de la prière, l'espérance, qui jouit par avance de leur accomplissement, l'amour, qui trouve ses délices à converser ainsi avec Dieu, comme tout être aimant avec ceux qu'il aime. Oh, quel rafraîchissement pour un enfant que de parler avec cette confiance et cette liberté à son Père! Prier pour les saints nous rend capables de discerner tout le bien qui est en eux. Si nous prions davantage pour les saints, nous aurions plus de joie en eux et plus de courage pour ce qui les concerne. C'est toujours un mal de perdre confiance au sujet des saints. L'amour du Seigneur ne peut faillir. Aussi pourrons-nous compter sur cet amour avec joie et confiance. « J'ai confiance à votre égard par le Seigneur. » Galates 5, verset 10. Étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ.
Philippiens 1, verset 6. Dieu agit par nos prières. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Elle est l'aliment de la prière. La prière doit baigner tout ce que nous faisons, car sans la prière, il n'y a pas de fruit.
Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai.
Jean 14, versets 13 et 14. Jésus répète sa promesse deux fois, « Je le ferai ». Il promet d'agir en réponse à nos prières. Demander en son nom, c'est réclamer ce que lui-même demande, ce que lui-même désire, ce qui est pour la gloire du Père. Une fois parvenus à la certitude que notre requête est selon la volonté de Dieu et le glorifie, nous pouvons prier avec persévérance jusqu'à ce que nous voyons l'exaucement, car il a dit « Je le ferai ». La vraie manière de prier sans cesse me paraît être avant tout une attitude du cœur, une conscience si vive de notre impuissance que nous lançons sans cesse un appel à Christ pour qu'il subvienne à nos immenses besoins. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Jean 16, verset 24. En effet, pour celui qui juge spirituellement des choses, une prière exaucée n'est pas seulement le don d'une bénédiction particulière. Il y voit infiniment plus. C'est pour lui un gage de sa communion avec le Père et avec le Fils, une preuve qu'il est admis dans leur conseil. Et encore là, quelle source ineffable de joie! À quoi sert de mettre vos difficultés entre ses mains si, l'instant d'après, vous les reprenez dans les vôtres? Dieu veut que nos cœurs soient aussi libres de soucis que nos consciences de péché. Prier, c'est ne rien attendre que de Dieu, tenir incessamment notre âme ouverte devant lui, exposer au Père nos besoins, nos craintes, nos peines, nous mettre continuellement entre ses mains, accepter d'avance tout ce qu'il lui plaira de dispenser, gémir devant lui dans le sentiment de notre faiblesse, nous placer sous les rayons de sa lumière, sous la rosée de ses grâces, nous abriter sous sa miséricorde, nous réchauffer sur son cœur. Voilà la grâce des grâces. Aucun vent, aucun orage n'éteindra la lampe de celui qui prie. Les événements n'inquiètent pas Dieu. Ils n'ébranlent ni son trône, ni son cœur, mais accomplissent toujours ses desseins. Dieu est amour pour nous. Nous sommes, par la grâce, les objets de ses tendres soins. Il nous entend et incline son oreille pour nous écouter. En toute chose donc, au lieu de nous inquiéter et de peser les choses dans nos propres cœurs, nous devons présenter nos requêtes à Dieu avec prière, avec supplication, avec un cœur qui se met à nu. Lorsque nous avons jeté notre fardeau sur celui dont rien ne peut troubler la paix, sa paix garde nos cœurs. Notre trouble est devant lui, et la paix constante du Dieu d'amour qui se charge de tout et sait tout d'avance tranquillise notre cœur déchargé et nous communique la paix qui est en lui. Point 6. La communion. La proximité morale à l'égard de Dieu et la communion avec lui sont les seuls moyens de croître réellement dans la connaissance de ses voies et des bénédictions dont il fait part à ses enfants, parce que c'est la seule position dans laquelle on peut les saisir, ou dans laquelle on en est moralement capable. Toute conduite qui ne convient pas à cette proximité de Dieu, toute pensée légère que sa présence ne comporte pas, nous font perdre ces communications de la part de Dieu et nous rendent incapables de les recevoir. La foi, l'espérance et l'amour forment notre caractère comme chrétien. 1 Corinthiens 13, verset 13. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut.
Colossiens 1, versets 4 et 5.
Ayant ouï parler de votre foi dans le Christ Jésus, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous avez déjà ouï parler dans la parole de la vérité de l'Évangile.
Mais ce caractère ne saurait se former en nous sans avoir des objets qui sont Jésus et Dieu. Le cœur s'appuie par la foi sur Jésus, l'attend, compte sur lui, se rattache à lui dans sa marche. Jésus a marché ici-bas. Il nous représente dans le ciel. Il nous soigne, comme le bon berger. Il aime les siens. Il les nourrit et les chérit. Notre foi et notre espérance l'ont toujours en vue. La conscience se tient devant Dieu, notre Père. Ce n'est pas un esprit de crainte. Il n'y a aucune incertitude quant à notre relation avec lui. Nous sommes les enfants d'un Père qui nous aime parfaitement, et nous sommes devant Dieu. Sa lumière a autorité et force dans la conscience. Nous marchons avec la certitude que les yeux de Dieu sont sur nous, en amour, mais sur nous, et la lumière manifeste tout. Elle juge tout ce qui pourrait affaiblir la douce et paisible réalisation de la présence de Dieu, notre communion avec Jésus, notre confiance en lui et l'intimité des entretiens de nos âmes avec le Sauveur. Parlez-lui, ne soyez jamais satisfait sans être en état de marcher et de parler avec Christ, comme avec un intime ami. Ne soyez satisfait que de rapports intimes avec celui qui vous a aimé d'un tel amour. Tout ce que nous faisons devrait être l'expression de l'attachement de notre cœur à Christ et sa manifestation aux autres. Quand je tourne mes yeux vers Jésus, quand je contemple toute son obéissance, sa pureté, sa grâce, sa tendresse, sa patience, son dévouement, sa sainteté, son amour, l'absence complète chez lui de toute recherche de soi-même, je peux dire « voilà ma vie ». C'est une immense grâce. Il est possible que cette vie soit obscurcie en moi, mais il n'en est pas moins vrai que c'est ma vie. Oh, combien j'en jouis quand je la contemple ainsi, combien j'en bénis Dieu. Quel repos pour l'âme, quelle joie pure pour le cœur. En même temps, Jésus lui-même est l'objet de mes affections, et toutes mes affections sont formées d'après ce saint objet. Si l'on a les yeux sur Christ, tout est facile. Sa communion donne de la clarté et de la certitude, et vaut tout le reste, tout ce que, peut-être, nous perdons. Comment le sarment porte-t-il du fruit ? Ce n'est pas en faisant un effort incessant pour recevoir l'air et le rayon de soleil. C'est simplement en demeurant attaché au cep, dans une union silencieuse et paisible, et les fleurs et les fruits apparaissent comme par une croissance spontanée. Comment un chrétien portera-t-il du fruit ? Par des efforts et des luttes pour obtenir ce qui est librement donné ? Par des méditations sur la vigilance, sur la prière, sur l'activité, sur la tentation et sur les dangers? Non. Il doit y avoir une concentration totale des pensées et des affections sur Christ, un abandon de l'être tout entier entre ses mains, un regard constant sur lui pour recevoir sa grâce. En cherchant avec ardeur le Seigneur et sa grâce, la puissance divine opère pour nous délivrer, nous libérer et nous faire trouver nos délices en Christ. Cette jouissance nous sépare du mal et du monde. Les pensées de l'homme à l'égard de la bénédiction sont trop souvent limitées aux choses de la terre, alors que la vraie bénédiction consiste à connaître Dieu. Le connaissons-nous plus intimement qu'aucun ami sur cette terre,
de telle sorte que notre âme s'épanouit dans sa présence, qui ne nous apporte aucune contrainte, mais nous remplit d'une bénédiction ineffable. Une telle bénédiction est inconnue de ceux qui s'accommodent de ce que le Seigneur ne saurait agréer, et qui pensent que des mots, de simples mots auxquels rien ne correspond dans leur vie, une profession sans pratique, la vérité dans la tête mais sans réalité dans le cœur, suffisent devant celui qui est aussi le saint et le véritable. Plus sa présence sera réalisée et manifestée, plus elle apparaîtra incompatible avec tout ce qui est opposé à sa nature et ne répond pas à la perfection de son être. Ceux qui ont été amenés à Dieu par l'efficace du sang de Christ et par l'onction du Saint-Esprit doivent se mouvoir dans une sphère hors de la portée des influences naturelles. La proximité de Dieu donne à l'âme une telle intuition de toutes ses voies, un tel sentiment de la justice de toutes ses dispensations, que nous pouvons rendre culte en sa présence, même alors qu'un coup de sa main nous a enlevé l'objet de notre plus tendre affection. Le sanctuaire n'est pas un lieu que le chrétien doive visiter occasionnellement, mais un lieu dans lequel il doit habituellement servir et adorer. C'est la sphère dans laquelle il doit vivre, se mouvoir et être. Plus nous vivons en la présence de Dieu, et moins nous pouvons souffrir d'en être éloignés, et aucun de ceux qui connaissent le bonheur d'y être ne se permettra légèrement quoi que ce soit qui l'en priverait. Il n'y a pas sur toute la terre un seul objet qui, au jugement d'un cœur spirituel, puisse équivaloir à une heure de communion avec Dieu. Si nous désirons jouir de l'approbation et de la présence de Dieu, il faut que nous cherchions par la foi à agir conformément à l'appel céleste, c'est-à-dire que nous devons chercher à arriver, en expérience, en pratique et en caractère moral, à ce à quoi Dieu nous appelle, savoir à une pleine communion avec son Fils unique, une communion avec lui dans sa réjection ici-bas, une communion avec lui dans son acceptation dans le ciel. Si la communion nous est peu familière, ne nous contentons pas de notre mesure et, d'autre part, ne nous décourageons pas. Dieu a pourvu à toute notre incapacité et à tous nos manquements par la sacrificature de Christ. Vivons dès maintenant avec Jésus dans les régions célestes. Regardons toutes choses terrestres de cette altitude, dans leur vraie perspective. Qui est celle-ci qui monte du désert s'appuyant sur son bien-aimé? Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5. Montez, montez toujours plus haut. Du désert, hors du désert, loin du désert, appuyé sur Christ. Oh, la joie de ne plus être seul, la joie indicible de connaître une intimité grandissante avec lui, de s'appuyer sur lui d'autant plus qu'on est faible, ignorant de l'avenir, incapable de se diriger seul. Accepter ce qu'on ne comprend pas, se soumettre à ce qu'on ne s'explique pas, croire à ce qui paraît impossible, marcher dans un chemin dont l'issue nous est cachée, voilà les premières leçons qu'il faut apprendre à l'école de Dieu. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité. Jean 8, versets 31 et 32. Le vrai disciple commence par suivre le Seigneur, et la connaissance vient par sa communion avec lui. Rien n'est plus favorable à la communion avec Jésus que la tranquillité d'âme. Dans cet état seulement, nous pourrons obtenir la docilité qui permet au Seigneur de nous révéler ses secrets et de nous montrer notre chemin. Par contemplation, j'entends celle de Jésus-Christ. C'est un regard simple, filial, assidu sur Jésus-Christ. Contempler Jésus-Christ, c'est vivre avec Jésus-Christ. Faire sa société de Jésus-Christ, s'accompagner de son souvenir, s'envelopper de sa présence, lui rapporter toutes nos pensées et tous nos desseins, remplir de lui notre esprit et notre âme. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Douce et précieuse expérience, non seulement parce qu'elle rend capable de faire face à toutes les circonstances, ce qui est d'un grand prix, mais parce que le Seigneur est connu comme l'ami constant, fidèle et puissant du cœur. Point 7. Paix et repos. Ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous sommes sauvés. L'Israélite ne savait pas seulement que le sang était une sauvegarde, il savait que lui était en sécurité. Et pourquoi? Était-ce en vertu de quelque chose qu'il eût fait, senti ou pensé? Nullement, mais parce que Dieu avait dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». Il se reposait sur le témoignage de Dieu. Il croyait ce que Dieu avait dit parce que Dieu l'avait dit. Il scellait que Dieu est vrai. Jean 3, verset 33. Ce qui lui donnait la paix, c'était le fait que l'œil de Jéhovah reposait sur le sang, et l'Israélite savait que lui l'estimait à sa valeur. Si notre paix devait dépendre de notre juste appréciation de la valeur du sang de Christ, nous ne pourrions pas plus jouir d'une paix solide que si nous cherchions cette paix par des œuvres de loi. Ou bien le sacrifice de Christ est suffisant, ou bien il ne l'est pas. S'il est suffisant, pourquoi ces doutes et ces craintes? Tous ceux qui doutent de leur pardon parfait et éternel nient, pour eux-mêmes, l'accomplissement et la perfection du sacrifice de Christ. Mais de nombreuses personnes se disent convaincues que le sang de Christ suffit parfaitement aux besoins du pécheur, si seulement elles étaient sûres d'avoir une part dans ce sang, si seulement elles avaient la véritable foi. Elles sont occupées de leur foi et de leurs sentiments, au lieu d'être occupées du sang de Christ et de la parole de Dieu. En d'autres termes, elles regardent au-dedans d'elles-mêmes, au lieu de regarder en dehors, à Christ. Ce n'est pas là la foi, et par conséquent, elles n'ont point de paix. Or l'Israélite, abrité sous l'aspersion du sang, n'était pas sauvé par la valeur qu'il attachait au sang, mais simplement par le sang. Le sang, avec sa valeur et sa divine efficacité, était placé devant Israël. Et si le peuple avait voulu placer, ne fût-ce qu'un morceau de pain sans levain, à côté du sang, comme fondement de sa sécurité, il aurait fait Dieu menteur et nié la parfaite suffisance de son remède. C'est par le sang de Christ que nous avons la paix, une justification parfaite, la justice divine. C'est lui qui purifie la conscience, lui qui nous introduit dans le Saint des Saints, qui fait que Dieu est juste en recevant le pécheur qui croit, et lui qui nous donne droit à toutes les joies, à tous les honneurs, à toutes les gloires du ciel. C'est Jésus qui donne un repos permanent à nos âmes, et non pas ce que peuvent être nos pensées relativement à nous-mêmes. La foi ne considère jamais ce qui est en nous comme étant le motif du repos. Elle reçoit, aime et saisit ce que Dieu a révélé, et ce que sont les pensées de Dieu au sujet de Jésus, dans lequel est son repos à lui. C'est de Dieu lui-même que nous avons à apprendre quelle est, à ses yeux, la vraie condition du croyant. Nous sommes plus disposés à dire à Dieu ce que nous sommes en nous-mêmes qu'à le laisser nous dire ce que nous sommes en Christ. En d'autres termes, nous sommes plus préoccupés de nos sentiments sur nous-mêmes que de la révélation que Dieu nous fait de lui-même. Dieu nous parle en vertu de ce qu'il est en lui-même et de ce qu'il a accompli en Christ. Telle est la nature de cette révélation que la foi saisit et qui remplit l'âme d'une parfaite paix. si l'expiation de Christ ne s'appliquait qu'aux péchés que l'homme peut discerner et reconnaître, nous nous trouverions bien éloignés du vrai fondement de la paix. Nous avons besoin de comprendre que le péché a été expié selon la justice de Dieu, que les droits de son trône ont été parfaitement satisfaits, que le péché, envisagé à la lumière de son inflexible sainteté, a été divinement jugé. C'est là ce qui donne à l'âme une paix durable. Une pleine expiation a été faite pour les péchés d'erreur ou d'ignorance du croyant, aussi bien que pour ses péchés connus. Le sacrifice de Christ pose la base de ses relations et de sa communion avec Dieu, selon l'appréciation divine que Dieu en fait. Il faut que le cœur soit en repos devant Dieu quant à la parfaite rémission des péchés, avant que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Si le sentiment de la culpabilité pèse sur la conscience, il doit y avoir de la terreur dans le cœur et, assurément, un cœur rempli de terreur ne peut pas être un cœur heureux et adorant. Ce n'est que d'un cœur rempli de ce doux et saint repos que procure le sang de Christ qu'un culte vrai et acceptable peut monter jusqu'au Père. Le même principe s'applique à notre communion avec le peuple de Dieu, à notre service et à notre témoignage au milieu des hommes. Tout doit reposer sur le fondement d'une conscience parfaitement purifiée, et cette conscience purifiée repose sur la base de la parfaite rémission de tous nos péchés, soit connus, soit ignoré. Une preuve puissante que je demeure en Christ est la tranquillité de mon esprit. Ma part est ailleurs et je poursuis ma route. Aussi longtemps que nous demeurons en lui, notre esprit demeure tranquille, quelles que soient les circonstances. L'âme ne jouit pas du bonheur en Dieu pour elle-même seulement, mais elle reflète aussi au dehors le caractère du lieu où elle se tient. Quand le cœur est en paix avec Dieu et qu'il n'a rien à se reprocher, quand la volonté propre est tenue en échec, la paix règne dans l'âme. On marche sur la terre, mais le cœur est au-dessus de la terre, en communion avec de meilleures choses. On marche dans un esprit de paix avec les autres, et rien ne trouble nos rapports avec Dieu. Il est le Dieu de paix. La paix avec Jésus remplit le cœur. Lorsque nous avons jeté notre fardeau sur celui dont rien ne peut troubler la paix garde nos cœurs. Notre trouble est devant lui, et la paix constante du Dieu d'amour, qui se charge de tout, et sait tout d'avance, tranquillise notre cœur déchargé, et nous communique la paix qui est en lui. Et cette paix surpasse toute intelligence, comme il surpasse lui-même toutes les circonstances qui peuvent nous inquiéter. Quelle grâce que nos soucis même fassent que nous soyons remplis de cette merveilleuse paix, si nous savons les apporter à Dieu qui est fidèle. C'est l'œuvre de Christ qui donne la paix à la conscience, mais c'est une volonté soumise, l'absence de toute volonté propre qui, dans les grandes et les petites choses, nous donne la paix du cœur, tandis que nous traversons les épreuves d'ici-bas. Je ne connais pas une parole plus propre à remplir l'âme de paix que celle-ci.
Ne vous inquiétez de rien.
Philippiens 4, verset 6. Combien souvent j'ai expérimenté la force de ces deux mots, de rien. La vie de victoire, c'est la cessation de toute vie propre, et la conséquence, c'est le repos de nos âmes. La vie de victoire, c'est Christ vivant en nous, agissant en nous. Entrer dans le repos, c'est vivre dans une entière dépendance de Dieu, comme Jésus a vécu, ne faisant rien de lui-même, ne disant rien de lui-même. Quelle source de paix de savoir que Dieu veille à notre croissance, qu'il travaille lui-même à rendre parfaite notre union avec Christ, éloignant ce qui peut nuire à cette union, pourvoyant à ce qui peut la favoriser. Quel repos de remettre enfin et complètement à ses soins notre vie en Christ, et de sentir que tout ce que nous faisons pour demeurer plus fidèlement dans son Fils, nos désirs, nos pensées, nos prières, ne sont que la manifestation de son œuvre en nous. Car c'est lui qui nous a fermis, en nous portant à veiller, à attendre, à travailler. Mais il ne peut accomplir cette œuvre avec puissance que lorsque nous cessons de l'entraver par nos propres efforts et acceptons par la foi la position dépendante qui, en même temps qu'elle honore Dieu, ouvre le cœur à son action. Alors, au milieu de la vie bruyante et agitée du monde, des tentations subtiles et incessantes du péché, au milieu des soucis journaliers et des épreuves, même les plus grandes, l'âme confiante conserve la paix, sachant que Dieu l'affermit en Christ. Une des forces de la vie de la foi est renfermée dans ce mot « maintenant ». Savoir faire l'expérience que maintenant, quelles que soient nos circonstances, l'œuvre du salut s'accomplit en nous, que maintenant Jésus nous appartient et toutes choses en lui, que nous pouvons en disposer maintenant, tel est le secret du repos et de la victoire. Au lieu de chercher en vain à entrer dans un état d'âme durable qui nous permette de demeurer en Christ, d'une manière permanente, commençons, par la foi, à y demeurer dans le moment présent. Jésus nous gardera pour le moment suivant, et nous arriverons, par ce chemin, à la communion de tous les instants. Quand l'âme se tient silencieuse en la sainte présence de Dieu, elle reçoit des enseignements que ses propres efforts et l'agitation de ses pensées ne lui avait jamais laissé entendre auparavant, et elle comprend toujours mieux que son salut est dans ce repos intime. Écoutez, croire, veiller, attendre de voir ce que Dieu fera, puis, dans la foi et l'obéissance, se soumettre à l'action de celui qui opère avec puissance. Il semble qu'aucun message ne devrait nous être plus doux et plus précieux que le commandement de rester tranquille et de nous tenir en repos, Dieu se chargeant de travailler pour nous et en nous. Pourquoi avons-nous tant de peine à l'accepter? Pourquoi sommes-nous si lents à comprendre que la tranquillité de l'âme est une bénédiction, une force, une source de grande activité, le secret de toute véritable vie en Christ? Nombreux sont les dangers qui menacent ce repos de l'âme. Il y a d'abord la dissipation de l'âme, provenant d'une préoccupation inutile ou trop grande des intérêts du monde. Chacun de nous a sa vocation terrestre, et, dans le cercle prescrit par Dieu, l'intérêt pour notre travail et pour ce qui le concerne est un devoir. Mais même en cela, le chrétien a besoin de vigilance et de modération. Nous devons veiller davantage encore à une sainte réserve dans les choses qui ne sont pas absolument imposées par Dieu. Si demeurer en Christ est réellement notre premier but, prenons garde à cette excitation inutile. Prenons garde, même dans les choses nécessaires et légitimes, au pouvoir extraordinaire qu'elles ont d'absorber tellement l'âme qu'il lui reste peu de force et peu de goût pour la communion avec Dieu. L'inquiétude et les soucis au sujet des choses terrestres tendent constamment à détruire la vie confiante et rendent l'âme semblable à une mer agitée. Dans cet état, il est impossible d'entendre le son doux et subtil de l'esprit. L'esprit de crainte et de méfiance dans les choses spirituelles n'est pas moins nuisible, De même, le trouble provenant de ce que nous cherchons dans nos propres efforts et dans nos propres forces, les bénédictions spirituelles qui ne viennent que d'en haut. Comment le cœur angoissé peut-il être tranquille et l'esprit inquiet calmé? Que me faut-il? Il me faut du repos. Comment le trouverai-je? En m'inclinant et en prenant sur moi le joug précieux de Christ qu'il porta lui-même dans les jours de sa chair, joug d'une entière soumission à la volonté de Dieu. Il faut que je puisse dire, sans la moindre restriction, et du plus profond de mon cœur, « Ta volonté soit faite, ô Dieu ! » Il faut que j'aie un sentiment si réel de son amour parfait envers moi et de son infinie sagesse dans toutes ses voies à mon égard, que je n'y voudrais rien changer, lors même que je le pourrais. Combien de difficultés disparaîtraient dans les détails de notre vie journalière, que de doutes seraient éclaircis si nous attendions la direction divine au lieu d'essayer d'agir sans elle. Si je n'ai pas de lumière pour avancer, mon devoir est de rester tranquille. Nous ne devrions jamais nous mouvoir dans l'incertitude. Souvent nous nous tourmentons pour savoir si nous devons aller ou agir, quand Dieu veut que nous restions tranquilles et ne fassions rien. Nous consultons Dieu, mais nous ne recevons pas de réponse. Nous demandons conseil à nos amis, ils ne peuvent nous aider, car c'est une question entre notre âme et le Seigneur. Nous voilà donc plongés dans le doute et l'anxiété, uniquement parce que l'œil n'est pas simple, parce que nous ne suivons pas Jésus, la lumière du monde. C'est un principe certain dans la vie divine que si nous suivons Jésus, nous aurons la lumière de la vie. Il l'a dit, et, pour la foi, cela suffit. Point 8. La joie. Là où est la volonté du Seigneur, il y a du bonheur. Christ est notre joie, mais c'est dans le chemin de sa volonté que nous trouvons la jouissance de son amour. C'est là que nous découvrons en lui une source de joie profonde et ineffable. Lui-même est notre trésor. Que Christ soit littéralement notre tout, voilà le seul secret de la puissance, le seul fondement d'une joie immuable. Notre christianisme ne devrait pas être une religion de regret, mais une joie continuelle du cœur. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. Il y a un lien plus intime entre ces trois états d'âme que nous ne sommes généralement disposés à l'admettre. La joie grandit toujours en proportion de la prière et des actions de grâce. Obéir constamment à ces trois commandements de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17, c'est vivre sur un plan supérieur. C'est donner la preuve d'une vie de victoire. Il est bon de s'appliquer ce thermomètre spirituel et de se poser la question « Suis-je toujours joyeux? Est-ce que je prie sans cesse et rends grâces en toutes choses ?» Quand un voile s'élève entre nous et Dieu, lorsque quelque chose ne va pas, la première bénédiction que l'ennemi nous enlève, c'est notre joie. Jésus voulait que nous possédions sa joie parfaite, et il a prié pour cela. Cette joie est compatible avec les plus grandes souffrances, puisqu'il l'a possédée au moment de sa passion. C'est cette joie-là qu'il veut nous donner. Le plus merveilleux est de l'entendre nous dire « Personne ne vous ôte votre joie ». Cette joie de Christ doit devenir pour nous un trésor inattaquable, inviolable, que personne ne peut nous enlever. Point 9. L'espérance. Le chrétien ne cherche pas la justice devant Dieu comme un homme qui ne la possède pas. Il est la justice de Dieu en Christ et Christ lui-même est la mesure de cette justice. La foi se repose dans cette justice comme Dieu y trouve son repos. La gloire dans laquelle Christ se trouve est la juste récompense de cette justice, comme elle en est la preuve.
Car nous, par l'Esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance,
la gloire espérée,
de la justice.
Galates 5, verset 5. Pour nous, c'est par la foi, car nous n'avons pas encore la chose espérée, savoir la gloire due à la justice qui est nôtre. Mais Christ la possède, de sorte que nous savons ce que nous espérons. C'est par l'Esprit que nous connaissons cette gloire et que nous avons l'assurance de la justice qui nous donne le droit de la posséder. Si nous apprécions son amour, l'attente de nos cœurs, remplis de lui, débordera nécessairement dans nos entretiens. Craindre le Seigneur, penser à lui, l'attendre en parlant de lui l'un à l'autre, garder fidèlement sa parole. Le fait du retour de Jésus se rattache à toutes les relations spirituelles de nos âmes, se déploie dans toutes les circonstances de la vie chrétienne. On est converti pour attendre le Fils de Dieu. La joie des saints dans le fruit de leurs travaux se trouve accomplie dans la présence du Sauveur. C'est à la venue de Christ que la sainteté a toute sa valeur, sa vraie mesure étant vue dans ce qui est manifesté alors. La venue de Jésus est la source de consolation pour le chrétien s'il vient à mourir. C'est pour la venue de Christ, encore que Dieu garde tous les siens en sainteté et sans reproche. Lorsque tous les orages auront pris fin, la splendeur de la gloire, pour laquelle le Seigneur nous prépare, brillera sans nuage, et cette splendeur sera lui-même. Oh, combien est précieux l'amour de Jésus, qui nous aura amenés dans sa gloire pour y être toujours avec lui. Si nos cœurs entretiennent l'espérance constante du retour du Seigneur, nous mettrons peu de prise à toutes les choses terrestres. Il est moralement impossible que nous puissions être dans l'attitude de l'attente du Fils venant du ciel et que nous ne soyons pas détachés de ce monde. On peut adopter la doctrine du retour du Seigneur et n'en être pas moins un homme du monde. Mais celui qui vit dans l'attente habituelle de l'apparition de Christ ne peut qu'être séparé de ce qui sera jugé et détruit quand il viendra. Une grande partie de notre faiblesse à attendre la venue du Seigneur vient du manque de jouissance de nos relations avec lui. L'intensité du désir, jointe à la connaissance du lien qui fait de nous un tout, produit une attente réelle. Le moyen de voir s'affermir et se vivifier en nous l'espérance n'est pas seulement de la retenir fortement dans l'âme, mais encore de l'exercer, de s'occuper fréquemment de ce qui en fait l'objet, de lever la tête parce que la rédemption approche. Luc 21, verset 28.
Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption approche.
L'espérance, comme toutes les vertus, se fortifie par l'exercice, et en se fortifiant, elle agit davantage et parvient à dominer tous les doutes et les pensées vaines de l'esprit.